Bonjour, vous écoutez l'épisode 20 du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, je suis aide à la parentalité pour les jeunes enfants. J'ai été professeure des écoles pendant 20 ans en REP+, en maternelle, et j'ai maintenant à cœur de vous aider et de vous donner des clés de compréhension pour mieux vivre en famille, de façon plus sereine, apaisée, avec des petits loulous en pleine forme et joyeux, de partager avec vous des bons moments de qualité. Nous allons parler aujourd'hui de conscientiser le corps. C'est une notion que j'ai affinée, comme bien d'autres, au fil de mes années de maternelle, en constatant que les élèves de grande section avaient une certaine difficulté à mouvoir leur corps, à le comprendre, à l'associer parfois à du bien-être, à du plaisir, et à se servir en fait de leur corps pour développer d'autres compétences et d'autres actions. Donc comme bien souvent, j'ai déconstruit ma notion de cette rhétorique qu'on nous apprend sur le schéma corporel. On a certaines formations sur comment transmettre le schéma corporel aux enfants. Donc j'ai déconstruit toute cette pratique et je suis repartie vraiment à la base du tout petit bébé qui vit ses découvertes par ses cinq sens. Sans passer par le langage au début, il vit vraiment la chaleur extérieure, le toucher, le contact, le bruit, le goût, l'odeur. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, au début, il ne le conscientise pas. Il le vit de l'intérieur sans savoir exactement si tout le monde vit la même chose, si c'est normal, si c'est pas normal. Juste, il le vit sans se poser de questions. Et ces actions qui sont menées par rapport à son corps au début, évidemment, elles sont menées par un adulte. Elles sont menées par sa figure d'attachement, son père ou sa mère, ou la personne qui s'occupe de lui à la crèche, qui va le faire manger, qui va le changer, qui va le promener, qui va le toucher, qui va le bercer, qui va l'endormir. C'est toujours au début un adulte qui va faire les gestes, puisque l'autonomie physique de l'enfant ne vient qu'à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les compétences physiques du corps. Donc ces besoins physiologiques, ils sont dans notre rayure de survie, ils sont liés à toute la dépendance au repas, à la couche, au sommeil, mais ils sont très importants pour ressentir ces premières notions d'émotion et de besoin pour l'enfant. Plus les gestes vont devenir volontaires au niveau de se retourner sur le tapis, d'essayer de se mettre assis, d'essayer de se lever, de toucher les objets, de les attraper, de faire des bruits avec sa bouche, d'entendre les bruits créés avec sa bouche, plus les gestes par le développement moteur vont se renforcer, vont s'automatiser, et plus l'enfant va commencer à devenir conscient que c'est bien lui qui pilote son corps, qui est à la tête du navire ou de la barque, et par la parole de l'adulte, par l'aide de l'adulte, il va encore plus conscientiser son propre pouvoir d'action sur son corps. Il pourra ensuite choisir de s'asseoir, choisir de se lever, avoir une propre intention de manger cette fraise, avoir une propre intention de toucher le chat. Et vous voyez que c'est devenir acteur de son propre élément corporel, de son propre élément physique. De passer de la dépendance physique à l'autonomie conscientisée de notre propre corps. Et c'est un chemin qui se fait sur plusieurs années et c'est un chemin qu'on peut renforcer en tant qu'éducateur, qu'enseignant et que parent pour lui faciliter l'accès en fait à toutes les fonctionnalités de notre corps, à toutes les richesses physiques qu'on a à l'intérieur et de découvrir très tôt le potentiel en fait qu'on a d'office, qu'on nous donne à la naissance, qui est livré de série dès la création. Donc plus je vais nommer avec l'enfant et plus il va conscientiser le pouvoir de son corps et il va découvrir le pouvoir lié à la vie, le pouvoir de gratitude et le pouvoir de s'occuper lui-même ensuite de son propre corps. Est-ce que nous avons eu cet échange-là avec notre corps? Je vous invite à y réfléchir. Est-ce qu'on a compris très jeune à quel point notre corps était important, à quel point notre corps allait nous aider dans notre vie future et d'adulte, à quel point notre corps était essentiel à notre survie? Alors j'espère que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont été initiés à ça, mais je pense que la majorité n'a pris conscience que bien plus tard de l'importance de soigner son corps, l'importance d'en faire un allié et de le chérir comme vraiment le bateau qui nous emmène plus loin. Donc, puisque nous ne l'avons pas tous eu, par contre, nous pouvons aider nos enfants, nos élèves, à le conscientiser très jeune. Ça marche très bien dès le dispositif des moins de 3 ans. Avec les enfants de 2 ans, leur verbaliser les membres, les fonctions du corps, pourquoi, comment l'améliorer. Ça fonctionne très bien parce qu'ils sont dans une envie de découverte, dans une envie de compréhension des mécanismes, dans une envie des causes-conséquences qui tombent exactement à ce moment-là. Donc c'est le créneau idéal entre 2 et 5 ans de leur donner les clés et de leur donner les outils sur leur propre corps pour mieux se comprendre eux-mêmes et pour mieux comprendre ensuite les réactions des autres personnes autour d'eux et éventuellement les envies aussi des autres personnes autour d'eux. Et on en reparle plus tard dans l'épisode aussi de la fonction vraiment existentielle de ce que ça va apporter au jeune enfant de conscientiser son corps. Il y a le risque de méconnaissance en fait de leur corps. Je l'ai vu sur certains enfants qui étaient englués en fait dans cette enveloppe charnelle qu'ils n'avaient pas du tout comprise. Ils balançaient les bras, ils n'avaient pas de coordination, ils ne savaient pas en fait à quoi servait leur corps. Et ils ne savaient pas non plus à quel point le corps pouvait les aider à jouer, les aider à prendre du plaisir, les aider à grandir et à se sentir utile, important, valable. J'en parle souvent hein, dans mes épisodes, on en parlait la semaine dernière. Se sentir écouté, valorisé et compris, ça passe aussi par une validation extérieure des capacités du corps physique de l'enfant. Donc, on lui amène de la compréhension, on lui amène du sens sur le fonctionnement, par exemple, de sa cheminée des émotions. C'est un épisode qui est assez facile à comprendre pour un enfant. Donc, si vous voulez leur faire écouter l'épisode 9 et l'épisode 10, ils ont une intelligence sensorielle, intuitive de ce qui se passe au niveau des émotions, mais en posant des mots dessus, ils l'appréhendent de manière plus simple, plus complète, plus explicite. Vous pouvez aussi verbaliser tout ce qui est autour de la fatigue, des repas, du soin qu'on apporte au corps quand on leur coupe les ongles, quand on leur change la couche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans quelle intention? Quelles sont les conséquences qu'on recherche en faisant ces actes-là? Si on ne coupait pas les ongles, que se passerait-il? Si on ne changeait pas la couche, que se passerait-il? Donc, quand vous liez à la fois les intentions de l'adulte quand ils font ces actions-là avec l'enfant et le sens de l'action, le sens des conséquences, le sens du résultat, si on ne changeait pas la couche d'un enfant pendant plus de 6 heures, que se passerait-il? Et l'enfant peut très bien le ressentir. Quand il est resté longtemps dans sa couche, il sent un inconfort, il sent le côté désagréable, des fesses rouges, de l'irritation, de la gêne. Et quand on le verbalise avec lui, quand on le conscientise avec lui, il le met, hein, comme dans l'épisode 12, il le met dans un de ses fichiers, et puis le jour où il se remémorera de cette situation, ou le jour où il va revivre cette situation, elle va s'ancrer encore plus loin, elle va s'ancrer encore plus clairement et à force de vivre les mêmes situations, il en tirera des conclusions que oui, pour être vraiment à l'aise, eh ben, on se change régulièrement, on ne laisse pas des substances un peu désagréables ou sales sur son corps et ça va le suivre pour le restant de sa vie. Donc plus on le conscientise tôt avec les jeunes enfants, plus on leur apprend pourquoi on prend soin d'eux, pourquoi on se nourrit, pourquoi on se douche, pourquoi on va se coucher, et aussi que le corps peut apporter du plaisir, de rigoler, de danser, de courir, toutes ces notions-là, c'est des petites graines qu'on sème pour qu'ensuite l'enfant se sente vraiment vivant dans son corps et acteur de son corps. Je vais presque dire copilote de son corps, mais je vous en reparle juste après. Donc faire la paix avec ce corps, c'est encore une pépite hein, que vous leur offrez pour la vie. J'en parlais la semaine dernière avec le langage, mais donner la confiance en son corps à un enfant me paraît dans la société actuelle vraiment un cadeau que vous leur faites. Que vous soyez éducateur, que vous soyez enseignant, que vous soyez parent, si vous offrez cette autonomie et cette liberté à vos élèves ou à vos enfants, ils s'en serviront toute leur vie. Et vous voyez à quel point je vois toujours sur le long terme de l'humanité, hein, c'est mon côté vraiment idéaliste, mais on a fait partie de certaines générations qui ont négligé leur corps, peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là, qui ont pensé que le mental était plus important, que les notes étaient plus importantes, que les résultats de stage étaient plus importants que de prendre soin de nous de manière transversale, de manière globale, de manière systémique. Il n'y a pas que notre intelligence, il y a aussi nos ressentis, il y a aussi nos émotions, il y a aussi notre corps qui nous porte, une fois de plus, comme un bateau dans la mer de notre vie. Donc, prenons-en conscience, nous adultes, pour ensuite réussir à le transmettre par la puissance du modèle, hein, comme dans l'épisode 6, par l'induire, par notre comportement, puisque plus nous, on va prendre soin de notre corps, on va le conscientiser aussi, plus on pourra, à notre tour, le proposer comme notion à découvrir, à compléter, à renforcer pour les jeunes enfants autour de nous. Donc c'est un chemin de va-et-vient, hein, un chemin entre la compréhension de l'enfant, la compréhension de l'adulte. Plus l'adulte sera serein avec son corps, plus il pourra transmettre des informations sereines à son enfant. Et on le voit parfois avec certaines mamans qui ont des difficultés à assumer leur corps, quel qu'il soit, ou leur maladie, quelle qu'elle soit. Pour l'enfant, ça devient difficile d'appréhender ces notions-là, de comprendre pourquoi il y a un mal-être ou un malaise avec leurs parents, avec cette maladie, avec... Et ça part aussi de notre zone d'acceptation, de notre zone de compréhension du monde extérieur. Si on se plaint toute la journée de telles notions, parce que ça peut toucher plusieurs domaines, de telles notions liées à notre corps, l'enfant pense qu'en se plaignant, ça suffit pour aller plus loin. Qu'en se plaignant, c'est comme si on se désolidarisait de notre responsabilité, de notre corps. Donc, faire la paix avec son corps, ça va le servir vraiment, vraiment, pour toute sa vie future. Et c'est quelque chose que je vous invite du coup à faire d'abord pour vous. Si vous en êtes à ce point-là, bah, d'écouter votre corps et de conscientiser un peu plus ce qu'il a vécu, ce qu'il vous a donné comme information, est-ce que vous êtes en paix avec lui ? Et ensuite, de faire le chemin vers votre enfant pour le rendre autonome dans cette connaissance, dans cette conscience et dans ce binôme avec son propre corps à lui. Évidemment, le corps, il va être lié à l'image de soi, hein. Il va être lié peut-être à la silhouette. On a des très jeunes filles maintenant autour de nous qui se plaignent très vite d'être trop grosses, d'être trop moches, de se comparer aux réseaux sociaux, de se comparer aux stars. Donc, plus l'estime de soi du corps a été installée tôt et plus, alors je ne vais pas non plus être bisounours là-dessus, mais plus l'adolescence pourrait être un peu moins violente en fait, de la réalité de se dire est-ce que mon corps est assez ceci, est-ce que mon corps est assez cela, est-ce que ma vie dépend de mon apparence, est-ce que ma vie dépend de ce que les autres pensent de mon apparence. Et vous voyez que cette conscientisation du corps, elle va toucher tellement de domaines sur l'estime de soi et sur les liens qu'on va créer avec des gens en se disant est-ce que je fais porter le poids de mon idée de mon corps à la personne en face, ou est-ce que je me sens complètement libre d'assumer mon corps et de comprendre que l'autre en face n'a pas son mot à dire, n'a pas de jugement à avoir sur mon propre corps. Et c'est déjà bien difficile pour un adulte de le faire, c'est bien difficile pour un adolescent de le faire, et donc un enfant qui n'aurait pas été sensibilisé à toutes ces notions-là, le vivra peut-être un peu plus dans la douleur au moment de l'adolescence, peut-être un peu plus dans la douleur au moment où il n'écoutera pas les signaux de fatigue, au moment où il n'écoutera pas les signaux de faim. Ça pourrait l'entraîner vers des situations difficiles, d'épuisement professionnel, d'épuisement maternel. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent, donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, d'avoir été au-delà des limites de notre corps, d'avoir été au-delà de notre fatigue, de ne pas avoir écouté plus tôt ce que notre corps nous disait. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je donne certains exemples des fois sur les rooms Clubhouse. La première fois que j'ai pas écouté mon corps, c'était une situation dans une association où je donnais des cours de salsa. Et le micro a été abîmé, le micro pour donner les cours. Et du coup, je portais ma voix. Et c'était tellement symbolique cette histoire, c'est que je me suis rendue aphone de faire le cours de salsa sans micro, puisqu'il y avait entre 60 et 80 personnes à chaque fois, et de m'empêcher de dire non à l'association, de m'empêcher de dire non, je mérite un micro, réparer le micro sinon je ne fais pas cours, je n'ai pas voulu écouter mon corps. Je me suis oubliée dans cette notion de corps, ça m'est arrivé à d'autres occasions, au niveau professionnel, au niveau parental aussi, je me suis oubliée dans les limites de mon propre corps. Donc si vous l'avez vécu, je compatis complètement. Je pense qu'on est nombreux à vivre cet épuisement maternel, cet épuisement professionnel, notamment si vous travaillez dans la petite enfance comme moi, parce qu'on veut tellement donner au niveau intention, au niveau mental, au niveau intellectuel, qu'on en oublie qu'on est juste un humain, qu'on est juste un corps et qu'on a aussi des limites. Et la puissance du mental est une chose extraordinaire, j'en suis convaincue, mais que la paix entre la puissance du mental et la puissance du corps, à un moment, devient essentielle pour avancer plus loin. Peut-être pas pour avancer plus vite, mais en tout cas pour avancer plus loin. Et c'est ça que j'ai à cœur de transmettre à chaque élève que j'ai eu dans le dispositif, à chaque parent que j'ai eu dans le dispositif, et aussi à chaque maman que j'ai eu en entretien. On en parlait il y a 2 semaines de l'entretien. Les mamans qui me confiaient « je n'en peux plus, je ne sais plus comment faire, je suis épuisée », à un moment, l'épuisement physique joue sur la pertinence qu'on croit avoir de notre potentiel. Ça veut dire qu'on est tellement épuisé physiquement, notre corps nous envoie des signaux, qu'on ne peut plus traiter au niveau intellectuel, qu'on ne peut plus traiter au niveau mental, et qui nous mène à un blocage, soit du dos, soit un blocage physique, une perte de mobilité dans un membre, une maladie, une dépression, un épuisement, un burn-out, parce qu'à un moment, le corps a envoyé tellement de signaux qu'il va plus loin, plus fort, plus haut, pour nous faire rendre à l'évidence qu'on doit s'arrêter. Donc soit ce sera dans la douleur, soit ce sera en prévention. À vous de voir peut-être de faire un point avec vous-même. Êtes-vous au bout du rouleau déjà? Ou êtes-vous capable de prendre soin régulièrement de vous, de vous accorder du temps, de détente, de qualité, de créativité? Et je vous rejoins sur l'idée de tequila individuel, parce que le tequila c'est aussi un temps de qualité avec soi-même. Prendre soin de son identité, de son autonomie, de ses relations à soi-même. Donc, de ne pas attendre d'être complètement cramé, d'avoir vraiment atteint la limite extrême où on ne peut plus se lever un matin, où on ne peut plus passer une heure sans pleurer de fatigue et d'épuisement. Donc, prenez soin de vous en premier pour ensuite pouvoir transmettre cette idée que le corps est un support, que le corps est un allié, que le corps est un binôme pour avancer plus loin, mais qu'en oubliant cette partie physique de nous-mêmes, en oubliant cette partie sensorielle, corporelle, émotionnelle, on perd une partie de nous-mêmes, on perd une partie de notre énergie et de notre force. Donc, ce sont des notions qui prennent du temps à appréhender, qui prennent du temps à incarner. On les comprend au niveau intellectuel, on les ressent parfois au niveau physique, mais c'est un travail, comme bien souvent, de pratique, d'intention, de se réconcilier chaque jour avec nos émotions, avec notre corps, de ne pas aller au-delà des limites raisonnables pour nous, qui ne sont pas celles du voisin, qui ne sont pas celles du coparent, qui ne sont pas celles de la belle-mère et de la voisine, mais d'arriver à s'écouter soi pour que notre corps ne nous fasse pas subir de dommages ou de résultats ou de conséquences qui nous empêcheraient d'aller au bout de nos projets, au bout de notre mission de vie par exemple. Et avant de transmettre tout ça aux enfants, du coup, faire peut-être un peu de clarté, un peu de point personnel et individuel sur où vous en êtes, vous, personnellement. Bon, je reviens aux enfants parce que je me suis un peu éloignée, comme bien souvent. Donc, on va parler avec eux de l'image de soi, on va parler de comment ils se sentent régulièrement, du plaisir de manger, du plaisir de dormir, du plaisir de mettre un pull bien chaud quand il fait froid dehors, du plaisir d'aller faire pipi quand on a très envie de faire pipi. C'est trivial, mais quand on a très envie de faire pipi, arriver aux toilettes, ben c'est un plaisir. C'est un plaisir d'accorder à notre corps ce dont il a besoin. Ces besoins physiologiques, ils sont hyper importants pour les adultes, pour les enfants, et c'est bien de le conscientiser très jeune. Ah ben là, si tu as vraiment froid, ben on rentre. Si tu as très chaud, bien sûr, tu peux enlever ton pull. Le rendre conscient des effets de son corps, des effets, des conséquences de ses actions, s'il met les mains dans la neige très longtemps, il va avoir fait son expérience, il va être content de lui. Mais les petits-enfants qui faisaient ça dans la cour de récréation, je leur disais, tu sais, elle est très froide cette neige. C'est une information. Mais tant qu'ils n'ont pas réalisé que là, ils avaient les doigts gelés et qu'ils se mettaient à pleurer, vous voyez que c'est l'expérience, la conscientisation qui va les aider la prochaine fois à ne pas rester longtemps les mains dans la neige, parce que longtemps les mains dans la neige, ils auront compris, ils auront retenu que ça provoque un résultat désagréable. Quand on a les mains dans la neige longtemps, c'est rigolo au début, mais à la fin, ça fait mal. À la fin, ça fait une souffrance, ça fait un ressenti désagréable. Et donc l'enfant va le vivre, va le conscientiser, grâce à vous, grâce à vos paroles, grâce aux mots que vous allez poser sur l'action, le résultat et la cause-conséquence scientifique. La neige, oui, c'est joli, mais la neige, elle a des propriétés qui, nous, avec notre corps à 37 degrés, ben ne fonctionnent pas longtemps. Et c'est très simple à expliquer aux enfants. Ils comprennent très bien. Alors que si on les empêche d'aller mettre les mains dans la neige, ben ils trouvent ça arbitraire, ils trouvent ça injuste, ils trouvent ça... Finalement, ils ne comprennent pas qu'on les empêche, alors que si on les accompagne dans la démarche, si on leur explique, et tu veux mettre les mains dans la neige, mais vas-y, mets les mains dans la neige, je te dis juste que la neige, c'est très très froid. Et voilà, en faisant nos expériences, nous aussi on a appris. En tombant, nous aussi on a appris à nous relever. Et en expérimentant et en posant des mots sur nos expériences, on a appris et on fait différemment tout au long de notre vie. Donc, donner ce cadeau aux enfants de prendre conscience de la température, de la protection, du plaisir de manger, du plaisir de faire des efforts, de courir, de nager. Quand vous revenez d'une séance de piscine, on est apaisé, on a des endorphines dans le corps, on est content, on est heureux d'avoir poussé un peu les limites de notre corps, d'avoir été plus loin, de montrer notre propre potentiel. C'est une joie de se dire que notre corps est capable de faire des efforts. Alors, on n'est pas obligé d'aller aux Jeux Olympiques pour ça, mais vous voyez l'idée de se dire « mon corps est puissant, mon corps a des capacités incroyables et j'en suis fier, je suis reconnaissant, je suis plein de gratitude que mon corps puisse m'aider à courir dans le parc, faire du vélo, m'aider à nager, sauter dans le sable ». Voilà, de conscientiser une fois de plus et de poser des mots sur les puissances incroyables de notre corps et de montrer à l'enfant qu'au début il ne savait pas marcher et maintenant il y arrive. Au début il ne savait pas faire du vélo et maintenant il y arrive parce qu'il y a eu de la pratique, il y a eu un accord entre sa volonté et son corps. Il y a eu une sorte de coordination entre ce qu'il voulait intellectuellement et ce que son muscle, ce que son membre était capable d'accomplir. Il y a une maturité du corps qui est dans le développement physiologique et il y a une maturité intellectuelle qui peut aller en parallèle ou pas du tout et être complètement décroché de nos ressentis physiques et de nos ressentis intérieurs. Et je vous alerte là-dessus puisque on a des enfants qui du coup ne font pas attention à l'état de leur corps, se blessent, ne le disent pas, des enfants qui ne ressentent pas la douleur, des enfants qui oublient que les ressentis sont des informations. Et ces enfants-là, qu'on a chaque année aussi, hein, pourraient malheureusement, plus tard, ne plus faire attention aux signaux de leur corps, pourraient ne plus faire attention aux blessures. Alors, si c'est juste une entorse, c'est encore quelque chose de résolvable, mais je voudrais vous alerter sur l'idée aussi que après, il y a une notion physique qui est liée à l'autre, à l'adulte qu'il va rencontrer, au patron qu'il va rencontrer, de pousser des limites un peu trop loin, d'accepter des gestes déplacés, d'accepter de la violence, d'accepter de la pression, que ce soit intellectuelle, physique, sexuelle, et que la notion du corps est bien souvent reliée à juste titre à la notion de consentement. Mais pour développer la notion de consentement, il faut d'abord avoir conscientisé les capacités de notre corps et le fait que notre corps est vraiment notre allié à nous et qu'il n'est pas à proposer, à offrir et à donner à n'importe qui. Donc l'étape 1, c'est vraiment de rendre l'enfant conscient, capable de comprendre son corps et après seulement de l'inviter à lui dire « Maintenant que tu connais bien ton bateau, tu connais vraiment toutes les fonctions, c'est toi qui décides où tu vas, ce que tu fais et avec qui tu partages ton bateau. » J'avais pas pensé à cette allégorie une fois de plus, mais souvent elles arrivent comme ça, hop, une bulle d'allégorie qui arrive. Donc on ne fait pas monter n'importe qui sur son bateau et on apprend nous-mêmes à décider de quel parcours on fait avec cette personne. Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la remet sur terre? Et ça part très jeune sur l'acquisition vraiment de cette conscience de soi, de ses mains, de son corps, de ses yeux. Notre corps est capable de, mais notre corps ne doit pas tout faire dans toutes les circonstances. Donc il y a des étapes physiques, il y a des étapes de compréhension mentale, et ensuite il y a des étapes peut-être un peu plus spirituelles, plus indépendantes, plus parfois liées à la religion, hein, si vous avez envie d'aller sur ce thème-là. Mais cette conscience du corps, c'est un des prérequis pour ensuite être libre d'accepter ou non de faire telle ou telle pratique avec son corps, que ce soit sportif, que ce soit interpersonnel, que ce soit tatouage, piercing, que ce soit sexuel. Ça peut toucher des domaines très très variés, mais ça commence par comment fonctionne mon corps et je suis maître à bord de mon corps. Voilà. On peut aussi leur expliquer, hein, comme je vous disais, toutes les maladies, le soin, l'alimentation, les conséquences pour que plus tard ils comprennent que s'ils ne se lavent pas les dents, c'est pas vous hein, qui allez avoir le problème quand il sera dans son studio et qu'il ne voudra pas se laver les dents. S'il n'a pas compris l'idée qui est sous-tendue derrière l'hygiène dentaire, c'est lui qui en portera les conséquences plus tard. Forcer un enfant à se laver les dents sans lui expliquer pourquoi, ça pousse l'enfant à se dire « je le fais parce que je suis obligée, mais je le fais pas parce que j'ai compris en fait à quoi ça servait et que ça m'aidait pour plus tard à avoir à la fois un joli sourire, une bonne santé, peut-être à me convenir, à avoir une bonne estime de moi. » Donc, une fois de plus, si vous voyez sur le long terme, sur les conséquences, quand on explique à un enfant pourquoi on va se coucher, pourquoi on se lave les dents, pourquoi on va faire du sport régulièrement, c'est lui donner des clés d'autonomie pour sa rayure d'adulte, pour sa rayure verte, pour sa rayure jaune, et vous créez en plus un lien de confiance puisque vous êtes le passeur d'informations. S'il a besoin un jour, il reviendra vous parler et vous poser plus de questions comme je vous disais dans l'épisode 19. J'ai mélangé toutes les idées que j'avais notées, donc je relis ça pour voir ce que j'ai oublié. Le droit à l'intimité, je vous ai présenté un petit peu déjà des pistes aussi. Le droit de dire non, On a tous les petits jeux sensoriels aussi qu'on peut faire avec les tout jeunes enfants qui sont liés à la découverte du sens du toucher. Donc une petite plume sur la peau, les petites caresses en disant « Oh, c'est tout doux, quand vous avez des livres à toucher, vous avez peut-être des balades des fois sensorielles avec des petits animaux. » Pour que l'enfant se dise « Je ressens des choses grâce à mon corps. » Est-ce que ces choses sont agréables? Est-ce que ces choses sont désagréables? Une fois de plus, il va créer un répertoire intérieur de « Est-ce que ça me plaît de toucher le grattoir de l'éponge? Est-ce que ça me plaît de toucher l'écorce de l'arbre ?» Et se faire un catalogue de ressentis, de références en fait, pour ensuite choisir s'il veut toucher cet objet ou non. Toucher un hérisson, c'est une expérience. Après, il y a peu d'enfants qui recommencent. Toucher des choses gluantes, il y a des enfants qui adorent. Voilà, chaque enfant peut répertorier et choisir quelles sont les sensations qu'il a envie de ressentir, quel effet ça lui donne pour lui, pour peu qu'on lui donne des expériences à faire. Donc n'hésitez pas à toucher, à écouter des choses différentes, à regarder des choses différentes, à goûter des choses différentes. Dans la croisière zen, je vous ai invité à faire beaucoup de kim, donc des kim vues, des kim audio, des kim dégustation, des kim visuels. Ce sont des jeux qui sont vraiment dans l'histoire des colonies, de l'humanité presque, où on découvre par les cinq sens beaucoup de choses qui ensuite nous aideront à faire des choix dans la vie et nous orienter vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir. Donc le travail autour des cinq sens, vous trouverez beaucoup beaucoup de ressources sur les réseaux, mais ça touche vraiment à l'individualité et à la portée ensuite de ce corps. J'accepte de lui faire vivre certaines choses agréables et je me refuse, je pose des limites pour les expériences désagréables. Je vais finir par la dernière idée des mots qu'on pose sur le corps des enfants, sur le corps des adultes qui nous suivent bien souvent toute notre vie. On en parlait un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière. Vous, quand vous étiez jeune, est-ce qu'à un moment on a posé des mots sur votre corps, sur vos oreilles, sur votre poids, sur vos boutons, sur vos cheveux, sur votre taille, sur votre comportement, sur qui aurait pu laisser des traces dans votre vie d'adulte, qui aurait pu laisser des blessures conscientes ou inconscientes, de se dire « Oh là là, cette phrase, elle fait mal, cette phrase, c'est une attaque qui a été répétée longtemps, qui ne m'a pas aidé à me construire ou qui ne m'a pas aidé à renforcer mon estime de moi. » Et de se dire qu'on a des fois des petites phrases qui ont l'air de remarques, qui ont l'air de anodines et qui pourraient, par la répétition, bloquer certains enfants dans une situation de « je suis trop petit, je suis trop grosse, mes oreilles sont moches, je suis vilaine », et lui faire croire, puisque c'est vraiment une croyance, et c'est bien triste après pour le déconstruire quand les gens sont adultes, on le voit beaucoup en accompagnement, de se dire « j'ai été convaincue pendant des années que cette phrase qui a été posée sur mon physique, sur mes actions, sur mes valeurs, sur mon comportement, sont des phrases définitives, sont des phrases réelles, alors qu'elles n'étaient finalement que la phrase d'une personne. Alors certes, si c'est une figure d'attachement, c'est plus dur à déconstruire, mais elles ont eu une portée qu'elles auraient pu ne pas avoir. Elles ont eu une portée et des conséquences qu'elles auraient pu ne pas avoir. » Donc maintenant que ce sont nos actions et nos paroles qui pourraient avoir des conséquences sur les élèves, sur les enfants autour de nous, essayons de prendre conscience que les petites phrases sur leur corps, les petites phrases sur leur comportement et leurs actions, on entend souvent dans le monde de la parentalité la notion d'étiquette, donc peut-être que je ferai un épisode là-dessus, mais cette idée que quand on pose des phrases sur le corps de l'enfant, ces phrases, elles ne se perdent pas. Ces phrases, elles restent un petit peu. Et plus on lui répète ça, et plus il va croire que c'est la vérité. Donc soyons vigilants quand on parle à nos enfants, de ne pas lui dire « Ah, de toute façon, t'es trop grande, t'es trop petite, t'es trop ceci, t'es trop cela. » Parce que, une fois de plus, ça ne concourt pas à une bonne estime de soi globale, qu'elle soit liée à la confiance en lui physique, qu'elle soit liée à la confiance en ses propres capacités, ses propres potentiels. Et ce serait bien dommage d'entamer en fait ce capital d'estime de soi qui est justement en construction et qui met tant de temps à se stabiliser. Donc on peut au contraire lui donner des phrases du genre « Waouh, tu as réussi à sauter à pieds joints depuis ce banc, mais dis donc, ton corps il a fait des progrès, avant tu ne savais pas le faire. Waouh, je suis impressionnée, qu'est-ce que tu en penses ? Tu te rends compte, ton corps il fait des choses vraiment importantes, intéressantes. » De valoriser les compétences, de valoriser les réussites. Ça, c'est sûr qu'on fera un épisode sur le côté encouragement et valoriser les enfants et les élèves, mais de se dire que les phrases qu'on va donner sont quelque part en suspension dans la construction de l'identité de l'enfant, sur son corps notamment. Voilà, j'ai donné beaucoup d'informations sur la conscientisation du corps. Je pense que c'est un domaine qui m'a aidé beaucoup, et je vous en parlais tout à l'heure, notamment d'avoir donné des cours de salsa, d'avoir donné des cours de zumba, d'avoir donné des cours de stretching aussi et de fitness. Je pense que c'était une conquête pour aller plus loin sur l'image de moi. Et c'est une conquête qui m'a apporté beaucoup de confiance en mes capacités, dans l'idée qu'on a chacun des compétences physiques différentes, on a des compétences intellectuelles différentes. Mais le fait d'offrir à l'enfant ces clés-là, de se dire « tu as des compétences et des potentiels dont tu n'es pas encore complètement conscient puisque tu es en construction », mais de lui offrir, de lui révéler en fait tout ce qu'il a de bon en lui et tout ce qu'il va être capable de faire avec tous ces outils montés en série. Donc plus on est conscient de ce qu'on vaut, de ce qu'on a comme potentiel intérieur, comme compétence, et plus on se lancera dans des projets riches, dans des projets ambitieux, pas ambitieux au sens forcément argent, gloire, beauté, mais ambitieux dans le sens des choses qui vont nourrir notre arc-en-ciel des besoins, des chances qui vont nous mettre en connexion avec les autres humains, que ce soit des collègues, des patrons, des amoureux, des enfants, et plus on est serein avec nous-mêmes au niveau de notre corps et nos potentiels, et plus on pourra être serein avec l'autre, avec l'altérité, avec l'extérieur. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à laisser des messages sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aller plus loin sur la conscientisation du corps et sur comment le transmettre à nos enfants ou à nos élèves, n'hésitez pas à me contacter ou à rejoindre le cercle de parents qui va débuter très prochainement. Je suis en train de le finaliser. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.